Il est 21h sur Phare FM et un grand merci à Olivier de la Haute-Loire qui a fait son premier don ce mois-ci. Le Flash Info, c'est Manon Bacour. Bonsoir. Bonsoir à tous.
Vous savez que quand une personne est mise en cause, fatalement, il y a bien un moment où il faut qu'elle s'explique. Et donc c'était aujourd'hui une de ces journées où il faut s'expliquer sur les accusations qui sont portées contre vous et que vous contestez. Donc la journée est terminée et je ne donne pas de plus amples précisions, pas aujourd'hui en tout cas.
Ces déclarations sont signées Christian Saint-Palais, l'avocat de Gérard Depardieu. L'acteur était entendu depuis 8h ce matin dans un commissariat parisien au sujet d'accusations d'agression sexuelle portées par deux femmes sur des tournages en 2014 et 2021. Des confrontations auraient eu lieu aujourd'hui. Gérard Depardieu sera convoqué en octobre prochain devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces faits. La mobilisation fait tache d'huile. Une manifestation en soutien à la Palestine est organisée sur le campus de Sciences Po à Menton. Un drapeau palestinien a également été dressé sur la façade du bâtiment, tout comme un drapeau avec le slogan « Gaza, Sciences Po est avec toi ». Le maire de la commune azuréenne a demandé à la direction de Sciences Po de faire retirer le drapeau palestinien de la façade du bâtiment qui appartient à la ville et réclame même une intervention rapide de la police. La date est fixée et a été dévoilée ce soir par l'Élysée. Emmanuel Macron va recevoir le 2 mai prochain, soit ce jeudi, les syndicats agricoles et les représentants des filières pour évoquer les perspectives de l'agriculture française et européenne. Cette réunion de travail fait suite à une série de mesures annoncées par le gouvernement samedi dernier, parmi lesquelles la présentation de la version définitive du plan Ecophyto de réduction des pesticides, ainsi que de nouvelles aides à la trésorerie des exploitations. Et puis le magazine 30 millions d'amis a dévoilé son classement des villes où il fait bon vivre pour les chiens et c'est Lille qui caracole en tête, suivie de Nice et de Bordeaux. Dans ce classement, divers critères ont été pris en compte, comme l'accessibilité aux espaces verts, à des canipars ou aux transports en commun. Les chats ne sont pas oubliés dans ce classement qui détaille le nombre d'abris mis à disposition pour les chats errants, mais aussi l'aide apportée à la stérilisation et à l'identification. Cette fois-ci, ce sont les villes de Montpellier et d'Aix-en-Provence qui décrochent la note de 20 sur 20. Bonne soirée à notre écoute.
La Bible dit
« Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché, c'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils ont beaucoup souffert, et c'est leur faute. »
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Le plaisir continue sur Phare FM et dans Cheminons Ensemble, on s'écoutait John Osborne avec One of Us. Belle soirée et belle écoute.
20h-22h, Cheminons Ensemble
avec Gaëlle.
Ce soir, c'est décidé, on prend soin de soi, on prend soin de son âme en écoutant le meilleur de la musique et les rubriques inspirantes sur Phare FM et dans Cheminons Ensemble. Et vous avez rendez-vous avec Bible pour les nuls dans quelques minutes. Et Sébastien Korn, Jessie, Elsa Palma, c'est tout de suite avec Tout est nouveau. Belle soirée et belle écoute sur Phare FM.
Tout est nouveau. Oh, 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 oh.
Pour les nuls.
Les publicitaires de chez IKEA prétendent que leur catalogue est davantage distribué dans le monde que la Bible. J'en doute fortement parce que je sais que la Bible est traduite en plus de 2800 langues et parfois elle est le seul ouvrage publié dans tel ou tel dialecte. À une certaine époque, les Beatles prétendaient être plus connus dans le monde que Jésus. Les Beatles ne sont plus, mais de Jésus on parle encore. Savez-vous que la Bible est le livre qui est allé le plus loin de la Terre ? Puisqu'une version sur microfilm a été déposée sur la Lune lors de la mission Apollo 14. C'est un document pas plus grand qu'un timbre-poste, mais toutes les pages de la Bible y sont, c'est-à-dire environ 1200. Je ne cesse de dire que ce livre est unique, original, spécial. Rien qu'à cause de cela, il faudrait sortir de notre ignorance et faire l'effort de sa découverte. Ouvrir une Bible, c'est peut-être le commencement d'une nouvelle vie. Cela vaut la peine. Enfin, je veux dire, cela vaut la joie.
La Bible pour les nuls vous a été présentée par Phare FM.
Phare FM, ma radio.
She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love, and you'll find that someday, soon enough, you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love, and you'll find that someday, soon enough, you will rise up.
Bye.
C'était Alicia Keys, Underdogs sur Phare FM et dans Cheminons Ensemble, votre émission musicale jusqu'à 22h. Vous avez votre prochain rendez-vous, Hommes et Femmes Mode d'Emploi, sur la relation avec ses enfants. Tout de suite, on s'écoute Micah Tyler avec Pray the Lord. Belle soirée et belle écoute sur Phare FM.
I remember when a long lost sinner met a good, good God. I remember when my heart was broken, but now it's not. I've tasted and I've seen, you've been so good to me. From the moment that you changed my life, God, you never stopped. I'm gonna sing it, I'm gonna shout it. Get me gonna praise the Lord. When the devil come try to get me gonna praise the Lord. From the moment when the sun starts rising till the sun goes down, I'm surrounded by a million mercies. I can feel them now. I've tasted and I've seen, you've been so good to me. Got a melody inside my heart, oh.
We'll be right back. Hommes et femmes, mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour, en partenariat avec The Watchers.
Aujourd'hui, nous parlons de la relation avec ses enfants.
Il y a un verset que je voudrais vous lire par rapport aux enfants, c'est dans Deutéronome, chapitre 11, versets 18 et 19. « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis, vous les lirez comme un signe sur vos mains, elles seront comme des frontaux entre vos yeux, et vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. » C'est vraiment une responsabilité du papa et de la maman dans laquelle ils ne peuvent pas être remplacés. On remercie tous ceux et toutes celles qui s'occupent des enfants quand on va à l'église, etc. Mais ils ne remplacent pas le rôle de modèle qu'un papa et une maman ont pour leurs enfants, parce qu'ils nous regardent vivre, ils savent quand nous ne disons pas les choses mais qu'elles existent quand même, ils nous connaissent. Et au travers de ça, nous ne sommes pas parfaits, et c'est bien qu'ils voient que nous ne sommes pas parfaits. Mais ils ont besoin de notre implication dans leur vie, et notamment au niveau spirituel. C'est indispensable, ne déléguez pas cela à quiconque d'autre. C'est vraiment à nous de vivre la foi d'une manière qu'ils se disent, eh bien moi, je veux la foi de mon papa et de ma maman, parce que j'ai vu l'impact que ça avait dans leur vie, j'ai envie d'avoir le bonheur qu'ils ont.
En fait, c'est vraiment une question de priorité. Juste pour pouvoir amener une conclusion sur ce sujet-là, parce que c'est tellement important. On a tendance, même nous, on l'enseigne, et il faut qu'on soit en permanence conscient pour remettre les choses dans l'ordre. Oui. Il s'agit de mettre Dieu en premier. Donc, par exemple, de prendre deux semaines de notre calendrier et de regarder, dans ces deux semaines vides, où est-ce que je vais prendre mon temps avec Dieu. Par exemple, dans mon cas, moi, ben, samedi, on a une journée off, et ben, je vais aller me promener une heure et je vais connecter avec toi d'une façon particulière. Je vais le caler ici. Et puis ensuite, on va caler le temps, on va manger ensemble, par exemple, le mercredi midi. On va le caler ici, on va prendre du temps pour tous les deux. Dimanche soir, on s'organise un truc tous les deux. On le pose dans l'agenda. Comme mon système de pierre, n'est-ce pas? Les enfants. Si on a 5 enfants, par exemple, c'est un chiffre normal, ça. Et on va prendre une heure par enfant dans la semaine. On va peut-être en prendre 2 cette semaine et dire, bah, je vais faire un truc avec mon fils aîné. Puis avec le dernier, on les cale dans l'agenda. Vous voyez qu'il reste plein de blanc, en fait. L'église, le travail va pouvoir se mettre dans tout ça. Donc ça vaut le coup de remettre les choses dans l'ordre et de mettre en priorité les choses que Dieu veut en premier dans notre vie.
C'était Hommes et femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericetrachel.com.
I'm the child of a loving father. I'm a part of the family. His mercy is sweet like summer, and he's always welcoming. So if you feel like you're going under, come and fall on amazing grace. He's the God who can walk on water, and his love can change. Somebody like me, somebody like you, you come as you are and you leave brand new. If you're feeling broken, running out of hope, then just look how his love set free. Somebody like me.
h 33 sur Phare FM et dans Cheminons Ensemble, on a eu le plaisir d'écouter Caleb and John avec Kane et Somebody Like Me. C'était la nouveauté musicale juste pour vous sur Phare FM.
20h-22h, Cheminons Ensemble
avec Gaël.
Vous êtes sur Phare FM et dans Cheminons Ensemble. Ça y est, le mois d'avril est terminé. Toutes les vacances scolaires sont passées. On n'attend plus que les fériés pour pouvoir se reposer. Justement, le prochain férié, c'est le 1er mai. Alors, quel est votre programme au 1er mai? Muguet, barbecue, manifestation, marché aux puces ou encore aller au travail? Un jour du 1er mai, fête du travail, ça arrive. Eh bien, répondez-nous au 0652 300 342, un texto pour nous dire ce que vous faites au 1er mai, quel est votre programme. On s'écoute tout de suite Jérémy Rosado avec Still God et vous avez rendez-vous avec Benjamin Peter Schmidt dans quelques minutes. Belle soirée et belle écoute.
Days are not behind you. He's heard every desperate prayer. Let every breath you breathe remind you of every time that he's been there. Don't you forget he's made a way. And I know he hasn't changed. He's still got. Second chances, and he still loves you. Still by your side, still fights your fight. Everything he's always been is everything he'll always be. He's still God. He's still God. I hope you know the one who goes before you. It's the one who split an ocean wide.
the God who says that he is for you has never lost a single time. Don't you forget he's faithful. Giving second chances, he still loves you.
instant sur Phare FM et dans Cheminons Ensemble, on s'écoutait Zoé Closure avec cœur. C'est tout de suite l'heure de retrouver Benjamin Peter Schmitt et toute son équipe. On s'y retrouve, c'est maintenant. Belle soirée.
On va laisser la place à Caroline, qui est avec nous, que vous ne connaissez pas, hein, que vous venez de rencontrer juste avant le tournage. Oui. Bonjour Caroline, comment tu vas ?
Ça va, merci.
Eh ben, on est ravis de t'avoir avec nous. Alors Caroline, peut-être juste avant de te laisser la parole, j'aimerais présenter, parce que c'est ton histoire et puis c'est une partie de ta vie que tu racontes dans ce livre-là, La vie d'Anna, que j'ai eu l'occasion de lire. Et c'est aussi ça qui m'a amené à t'inviter, puisque tu nous racontes une partie assez forte, importante de ta vie. Alors c'est aux éditions Maison de la Bible, tu m'as dit, hein ?
Oui.
C'est
oui.
ça. Donc c'est la Maison de la Bible qui édite le livre ici. Alors peut-être Caroline, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire aussi, ben voilà, peut-être qu'est-ce qui t'amène dans cette émission.
Alors je m'appelle Caroline Amoriti, j'ai 39 ans, j'ai aujourd'hui 3 enfants, j'habite dans l'Aude et je suis ici pour vous parler de mon livre et de l'histoire de ma petite fille Anna, qui est morte in utero il y a presque 8 ans. Voilà.
C'est ça. Alors c'est malheureusement quelque chose qui la perte d'un enfant in utero, c'est quelque chose qui se passe trop souvent et que on le mentionnait en off tout à l'heure, mais on parle même d'un tabou. C'est quelque chose où on l'aborde de plus en plus. C'est quelque chose que j'ai vécu de très près il y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que c'est vraiment pas anodin. C'est pas une simple, même là, j'allais dire pour toutes les mamans qui sont passées par une fausse couche, etc. Il y a aussi tout cet aspect-là. Alors Caroline, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 2014. Que s'est-il passé?
Alors, en 2014, à l'époque, j'habitais en Californie du Sud. J'avais été envoyée là-bas avec mon mari pour le travail. À l'époque, on avait 2 enfants qui avaient 8 et 4 ans. On a mené une vie paisible, très agréable. Et j'ai pensé qu'il était temps de penser au petit dernier, au troisième. J'étais prête, le schéma était parfait. Je le voulais depuis un moment et voilà, je suis tombée enceinte. Et j'ai une grossesse idyllique, contrairement à ce qui s'était passé pour mes 2 aînés, jusqu'à un moment, un jour, 7 mois passés de grossesse, où je n'ai plus senti mon bébé bouger. Quelques heures plus tard, j'étais à l'hôpital et on me disait que le cœur de mon enfant s'était arrêté et qu'il fallait que je revienne le lendemain pour déclencher un accouchement. Voilà, c'était très violent. J'y suis retournée et j'ai accouché 2 jours après de ma petite Anna. Voilà, c'était le 14 juillet 2014.
Est-ce que tu as pris tout de suite la mesure avec ton mari aussi de ce qui était en train de se passer? Quand tu as pas senti ta petite bouger, bon, forcément, on veut pas tout de suite penser au pire. Donc, comment ça se passe un petit peu ce cheminement au niveau de toi avec ton mari? Comment ça se passe?
Alors, au début, les quelques heures avant d'aller vérifier à l'hôpital, on ne veut pas y croire. Enfin, j'ai comme suivi une procédure classique de voilà, au cas où il se passerait quelque chose, comment on fait? Et puis jusqu'au moment où même le médecin était très rassurant, bon allez venez, on va vérifier tout ça. Et puis c'est jusqu'au moment où j'ai eu cette annonce et là c'est un grand choc. Alors même si de ces quelques heures, j'ai un souvenir un peu flou parce que les minutes, les heures, enfin tout était confondu. C'était un petit peu un brouillard, mais malgré tout, il y a un ressenti physique en fait. En même temps, on m'étouffait, on poignardait. Physiquement dans mon corps, je ressentais la douleur et j'étais bien présente. Oui, j'ai compris tout de suite ce qui m'arrivait. J'ai une belle phase de choc, mais je n'ai pas eu je n'étais pas dans le déni du tout de ce qui se passait. J'étais très consciente et lucide.
Avec ton mari, on vous a conseillé aussi de ne pas passer tout de suite par l'accouchement, hein, qui est aussi une étape très difficile, ô combien difficile. Donc vous avez passé une nuit encore, où vous êtes rentré à la maison, si je me trompe pas, hein, dans le livre, hein, c'est ça?
Oui.
Comment ça s'est passé la nuit? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Alors à ce moment-là, on s'est retrouvé face à un choix, en fait. Soit on se laissait aller dans l'événement, en fait, ça suivait son cours, soit on commençait un combat. Parce qu'on est croyants, et pour nous, là, à ce moment-là, c'était évident qu'il fallait qu'on prie pour un miracle, en fait. Il fallait qu'on y croie, fallait soumettre ce truc énorme qui nous arrivait à Dieu. En fait, là, il n'y avait plus de fioriture. J'avais l'impression qu'il fallait que je sorte ce que j'avais dans les tripes, et la seule chose qui me restait, c'était Dieu. Donc, ça a été vraiment le point de départ d'un combat qui a duré vraiment tout le long après, jusqu'au processus de deuil, et puis l'arrivée du moment de la résilience. Ça a vraiment été, c'était le point de départ de ça.
Et comment, dans la nuit, donc vous avez passé la nuit à prier, si je comprends bien, du coup.
Oui.
Vous avez ensuite, je le dirais comme ça, mais le miracle ou l'orientation de la prière, ça s'est pas passé comme on l'aurait tous souhaité, forcément. Est-ce que à ce moment-là, vis-à-vis de Dieu, il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on est le lendemain, qu'il faut accoucher? Est-ce qu'il y a un doute de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a...
En fait, ça a été un peu plus long que cette nuit, parce que j'ai accouché finalement 2 jours après. Hein. C'est long, ouais. un déclenchement quand on n'était pas prêt du tout à avoir son enfant. Donc, il y a eu encore une fois, un processus pendant l'accouchement. Il y a vraiment eu un moment où j'ai été seule et j'ai vraiment confié à Dieu que j'acceptais la situation, même si elle finissait pas comme je le souhaitais. Mais j'ai pas douté de l'amour de Dieu. J'étais en fait, dès qu'on a commencé ce combat, j'étais dans une espèce de paix qui était pas tellement compréhensible, hein, même pour le personnel hospitalier qui était autour de nous. On a vraiment été, on a été en paix. Et ça, c'était, je pense, déjà le fruit de cette prise de position de départ, malgré le fait que, deux jours après, notre bébé était bien décédé.
Mmh. Ça, c'est rien que pour moi, cette étape-là. Et à chaque fois que j'entends quelqu'un qui, dans une situation, on a envie de dire, mais c'est révoltant. Mmh. Et on aurait envie de donner toutes les raisons à la personne de se révolter, de dire c'est injuste, etc. Parce qu'on connaît d'autres histoires. Il n'y a pas très longtemps, on a présenté un bébé où, quand il est venu, il était décédé. Hein. Et on a envie de dire c'est révoltant. Moi, rien que ce que tu dis là, Caroline, j'ai envie de dire, on voit déjà la main de Dieu, en fait, dans cette capacité à dire, mais on se révolte pas contre lui, on l'aime. Ça montre aussi que vous le connaissiez, hein, que vous le connaissiez. Je sais pas, vous aviez envie déjà de réagir à cette étape-là de l'histoire, parce qu'après on va aller un peu plus loin quand même. Mais est-ce que vous aviez déjà envie de dire quelque chose?
Quand on est en état de grossesse, on donne la vie, on est dans une perspective de vie, on fait des projets sur l'enfant, on fait des rêves sur cet enfant. Et j'imagine même pas l'horreur quand tout s'arrête soudain, alors que on est avec plein d'attentes. C'est, je pense que, comme je disais tout à l'heure, le deuil d'une maman, quand notre maman est âgée, c'est dans l'ordre des choses. Là, on doit le vivre comme une injustice, quoi. Ça doit être terrible.
Et je pense que ce qui est aussi très important, ça montre à quel point, même si l'enfant n'est pas encore j'ai envie de dire visible pour tous les autres, la mère sait déjà à quel point c'est déjà un être humain qui est déjà présent.
Oui.
Et là, on parle d'un enfant de 7 mois.
7 mois.
7 mois, c'est déjà plus la taille d'un haricot comme au tout début. Hein. 7 mois, c'est déjà un beau petit enfant. Comment à ce moment-là, et j'ai envie de dire dans la suite, tu as parlé d'une paix particulière qui étonnait aussi le monde médical. De quelle manière vous avez vu avec ton mari et ta famille, j'ai envie de dire, la présence de Dieu dans tout le processus aussi de deuil, tout ce processus-là? Comment ça s'est illustré concrètement dans votre histoire?
Alors c'est vrai que autour de moi, on me l'a dit très vite, en fait, même je pense dès la première semaine, quand j'ai commencé à revoir du monde après mon accouchement, que je rayonnais. Les gens, ils comprenaient pas très bien. Alors il y avait les croyants qui étaient autour de moi qui pouvaient en avoir une petite idée. Et puis il y avait ceux qui étaient mes amis pas croyants qui me demandaient, mais t'as pas envie d'être en colère? Mais en fait, ils n'arrivaient pas à mettre un doigt dessus. Alors moi, je m'étais donné la mission de partager ce truc-là que je suis... J'avais pas la prétention d'avoir du tout fini mon deuil, mais j'étais sûre de vouloir parler de mon histoire et de ce que Dieu faisait en moi. Et ça, j'en ai eu conscience très tôt, en avançant dans mon deuil. Et au niveau de la main de Dieu, à titre personnel, de comment Dieu agit, en fait, j'ai envie de dire que ça a été un dialogue entre lui et moi pendant les premiers jours, les premières semaines, et même les mois qui ont suivi, où en fait, il y a eu des hauts, il y a eu des très très bas. Et il y a eu vraiment des moments où il n'y avait plus que lui et moi, parce que bon, même si j'avais de l'écoute, même au niveau de ma famille, même de mon mari, il y a des grands, grands moments de solitude hein, dans le deuil périnatal. Et en fait, il ne m'a jamais laissé tomber. Il y a eu des moments où j'ai besoin, j'y arrive pas. Et, ouais. Et il me relevait. Mmh. Et à chaque fois, il me relevait. Donc, ça s'est espacé, et ça s'est guéri, ça a avancé, ça a vraiment été un cheminement, vraiment un cheminement.
Ouais. C'est vrai aussi, je l'ai pas mentionné, mais ce livre, tu l'as écrit en passant dans ces étapes-là. Je vais pas oui. raconter la fin du livre parce que vous le lirez, mais on sent que tu l'écris à chaud aussi. On sent que c'est oui. pas quelque chose. Est-ce que le fait d'écrire, ça t'a aidé à surmonter les étapes? Donc, au-delà même de pour nous, ça t'a fait du bien à toi d'écrire ce livre.
Bah, c'était d'abord pour moi, en vrai. Au départ, c'était pas un livre que je voulais écrire. Je pense que c'est 2-3 jours après la sortie de l'hôpital, j'ai pris un carnet et j'ai voulu écrire tout ce qui s'était passé dans les moindres détails pour rien oublier, en fait. Mmh. Et, c'est que quelques semaines après, je me suis dit, mais pourquoi j'en parlerai pas mieux que ça? Parce que j'avais cherché des ressources et j'avais pas trouvé grand chose. Ouais. Qui m'encourage et je me suis voilà, c'est devenu un livre comme ça, mais en fait l'écriture m'a vraiment permis de tout sortir, en fait. Et c'est vrai que je l'ai écrit en traversant les étapes, et entre le début et la fin du livre, en fait, je pense qu'on voit déjà l'évolution, en fait, de mes questions. On m'a souvent fait la remarque que ça ressemblait à un journal intime, et en fait c'est vrai que c'est un peu ça. C'est
ah oui, puisque puisque même c'est chaque chapitre, c'est des dates, en fait. Fin juillet 2014, ouais. c'est pas des intitulés, hein, c'est septembre 2014, c'est ce qui est en train de se passer au moment. Mm-hmm. Et d'ailleurs, au début, j'ai pas tout de suite compris que tu l'écrivais à chaud. Je me suis dit, mais comment elle a pu se rappeler de tellement de détails aussi? C'était impressionnant. Voilà, on voit que on comprend mieux, en fait, ce qui est en train de se passer dans le cœur d'une maman.
Sur Phare FM et dans Cheminons Ensemble, on s'écoutait The Chainsmokers avec Daya, Don't Let Me Down. Et Cheminons Ensemble, votre émission de la soirée, se termine dans une poignée de minutes. Il est 21h57. C'est Guillaume maintenant qui prend la suite avec Espoir du Soir. Bonsoir. Encore une belle soirée passée en votre compagnie. Et on va recommencer dès demain à 20h. Soyez au rendez-vous, Dieu voulant. On s'écoute pour terminer Crowder avec Red Letters. Merci pour votre fidélité et votre générosité. C'était Gaëlle avec vous dans Cheminons Ensemble et je vous dis à demain.
There I was on death row, guilty in the first degree, Son of God hanging on. My destiny. The crowd was shouting, crucify. Could have come from these lips of mine. The dirty shame was killing me. It would take a miracle to wash me clean. Then I free man that day.
the free.